Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 3, chapitre 10. Écrit populaire, Notre Père, ton règne vienne, ta volonté soit faite, notre pain, sermon sur la repentance, la rémission vient de Christ. Telles étaient les luttes que le champion de la parole de Dieu avait à soutenir dès son entrée dans la carrière. Mais ses combats avec les sommités de la société, ses disputes d'académie sont peu de choses pour le chrétien. Les docteurs humains s'imaginent avoir remporté le plus beau des triomphes s'ils réussissent à remplir du bruit de leur système quelques journaux et quelques salons. Comme il s'agit chez eux d'une affaire d'amour-propre ou de parti, plus que du bien de l'humanité, ces succès du monde leur suffisent. Aussi leurs travaux ne sont-ils qu'une fumée qui, après avoir aveuglé, passe sans laisser de traces. Ils ont négligé de déposer le feu dans les masses. Ils n'ont fait qu'effleurer l'espèce humaine. Il n'en est pas ainsi du chrétien. Il ne s'agit pas pour lui d'un succès de société ou d'académie, mais du salut des âmes. Il néglige donc volontiers l'escrime brillante à laquelle il pourrait se livrer tout à son aise avec les champions du monde et préfère les travaux obscurs qui apportent la lumière et la vie dans les cabanes des champs et dans les réduits du peuple. C'est ce que fit Luther, ou plutôt, selon le précepte de son maître, il fit ces choses-ci sans laisser celles-là. Tout en combattant les inquisiteurs, les chanceliers d'université, les maîtres du sacré palais, il s'efforça de répandre parmi la multitude des connaissances saines en matière de religion. C'est à ce but que se rapportent divers écrits populaires qu'il publia alors, tels que ses « Discours sur les 10 commandements », prononcés 2 ans auparavant dans l'église de Wittenberg et dont nous avons déjà parlé, et son exposition de l'oraison dominicale pour les laïcs simples et ignorants. Qui n'aimerait à savoir comment le réformateur s'adressait alors au peuple? Nous citerons donc quelques-unes des paroles qu'il a envoyées « courir le pays », comme il le dit dans la préface du second de ses écrits. La prière, cet acte intime du cœur, sera sans doute toujours un des points par lesquels une réformation de vérité et de vie devra commencer. Aussi Luther s'en occupe-t-il sans retard. Il est impossible de rendre son style énergique et la force de cette langue qui se formait, pour ainsi dire, sous sa plume à mesure qu'il écrivait. Cependant, nous essaierons. « Quand tu pries, dit-il, aie peu de paroles, mais beaucoup de pensées et d'affections, et surtout qu'elles soient profondes. Moins tu parles, mieux tu pries. Peu de paroles et beaucoup de pensées, c'est chrétien. Beaucoup de paroles et peu de pensées, c'est païen. » La prière d'apparence et du corps, c'est ce bourdonnement des lèvres, ce babil extérieur qui se fait sans aucune attention et qui frappe les yeux et les oreilles des hommes. Mais la prière en esprit et en vérité, c'est le désir intime, le mouvement, les soupirs qui partent des profondeurs du cœur. La première est la prière des hypocrites et de tous ceux qui se confient en eux-mêmes. La seconde est la prière des enfants de Dieu qui marchent dans sa crainte. Puis, en venant au premier mot de la prière du Seigneur, notre Père, il s'exprime ainsi. « Il n'y a point de nom entre tous les noms qui nous disposent mieux à l'égard de Dieu que le nom de Père. Il n'y aurait pas pour nous autant de bonheur et de consolation à l'appeler Seigneur ou Dieu ou Juge. Par ce nom de Père, les entrailles du Seigneur sont émues, car il n'y a pas de voix plus aimable et plus touchante que ne l'est celle d'un enfant pour son Père. » Qui est au ciel, celui qui confesse qu'il a un Père qui est dans le ciel, se reconnaît ainsi comme abandonné sur la terre. De là vient qu'il y a dans son cœur un désir ardent, comme l'est celui de l'enfant qui vit hors du pays de son Père, parmi des étrangers, dans la misère et dans le deuil. C'est comme s'il disait « Hélas, mon Père, tu es dans le ciel, et moi, ton misérable enfant, je suis sur la terre, loin de toi, dans toutes sortes de dangers, de nécessités et de deuils. » Ton nom soit sanctifié. Celui qui est colère, envieux, qui maudit, qui calomnie, déshonore le nom de ce Dieu au nom duquel il a été baptisé. Employant à des usages impies le vase que Dieu s'est consacré, Il ressemble à un prêtre qui se servirait de la coupe sainte pour donner à boire à une truie ou pour ramasser du fumier. Ton règne vienne. Ceux qui amassent des biens, qui bâtissent avec magnificence, qui cherchent tout ce que le monde peut donner et prononcent des lèvres cette prière, ressemblent à ces grands tuyaux d'orgue qui chantent et crient de toute force et sans cesser dans les églises, sans avoir ni parole, ni sentiment, ni raison. Plus loin, Luther attaque l'erreur des pèlerinages si répandue alors. L'un va à Rome, l'autre à Saint-Jacques, celui-ci bâtit une chapelle, celui-là fait une fondation pour parvenir au règne de Dieu. Mais tous négligent le point essentiel qui est de devenir eux-mêmes son royaume. Pourquoi vas-tu chercher le règne de Dieu au-delà des mers? C'est dans ton cœur qu'il doit s'élever. C'est une chose terrible, poursuit-il, que de nous entendre faire cette prière « Ta volonté soit faite ». Où voit-on faire dans l'Église cette volonté de Dieu? Un évêque s'élève contre notre évêque, une église contre une autre église, prêtres, moines, nonnes, querelles, combattent, guerroient, il n'y a en tout lieu que discorde, et cependant chaque parti s'écrie qu'il a une volonté bonne, une intention droite, et ainsi, à l'honneur et à la gloire de Dieu, ils font tous ensemble une œuvre du diable. Pourquoi disons-nous « notre pain » continue-t-il en expliquant ses paroles « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Parce que nous ne prions pas pour avoir le pain ordinaire que les païens mangent et que Dieu donne à tous les hommes, mais pour notre pain à nous qui sommes enfants du Père Céleste. Et quel est donc ce pain de Dieu? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. C'est pourquoi, qu'on ne s'y trompe pas, tous les sermons et toutes les instructions qui ne nous représentent pas et ne nous font pas connaître Jésus-Christ ne sauraient être le pain journalier et la nourriture de nos âmes. À quoi sert-il qu'un tel pain nous ait été préparé s'il ne nous est pas servi et qu'ainsi nous ne puissions en goûter? C'est comme si l'on avait préparé un magnifique festin et qu'il n'y eut personne pour distribuer le pain, pour apporter les mets, pour verser à boire, en sorte que les convives dussent se nourrir de la vue et du parfum. C'est pour cela qu'il faut prêcher Jésus-Christ seul. Mais qu'est-ce donc connaître Jésus-Christ, dis-tu, et quel profit en revient-il? Réponse, apprendre à connaître Jésus-Christ, c'est comprendre ce que dit l'apôtre, Christ nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Or, tu comprends cela si tu reconnais que toute ta sagesse est une condamnable folie, ta justice une condamnable iniquité, ta sainteté une condamnable souillure, ta rédemption une misérable condamnation. Si tu sens que tu es vraiment devant Dieu et devant toutes les créatures, un fou, un pécheur, un impur, un homme condamné, et si tu montres non seulement par des paroles, mais du fond de ton cœur et par tes œuvres, qu'il ne te reste aucune consolation et aucun salut si ce n'est Jésus-Christ, croire n'est autre chose que manger ce pain du ciel. C'est ainsi que Luther demeurait fidèle à sa résolution d'ouvrir les yeux à un peuple aveugle que des prêtres menaient où bon leur semblait. Ses écrits répandus en peu de temps dans toute l'Allemagne y faisaient lever un jour nouveau et répandaient abondamment les semences de la vérité sur une terre bien préparée. Mais en pensant à ce qui était loin, il n'oubliait pas ce qui était près. Les dominicains damnaient du haut de toutes les chairs l'infâme hérétique. Luther, l'homme du peuple, et qui, s'il avait voulu, eût pu avec quelques paroles en soulever les flots, dédaigna toujours de tels triomphes et ne songea jamais qu'à instruire ses auditeurs. Sa réputation, qui s'étendait de plus en plus, le courage avec lequel il élevait la bannière de Christ au milieu de l'Église asservie, faisait suivre ses prédications avec toujours plus d'intérêt. Jamais l'affluence n'avait été si grande. Luther alla droit au but. Un jour, étant monté dans la chaire de Wittenberg, il entreprit d'établir la doctrine de la repentance et à cette occasion, il prononça un discours qui devint depuis très célèbre et dans lequel il posa plusieurs des bases de la doctrine évangélique. Il oppose d'abord le pardon des hommes au pardon du ciel. « Il y a, dit-il, deux rémissions, la rémission de la peine et la rémission de la faute. La première réconcilie extérieurement l'homme avec l'Église chrétienne. La seconde, qui est l'indulgence céleste, réconcilie l'homme avec Dieu. Si un homme ne trouve pas en lui cette conscience tranquille, ce cœur joyeux que donne la rémission de Dieu, il n'y a pas d'indulgence qui puisse l'aider. Dût-il acheter toutes celles qui ont jamais été sur la terre ? Il continue ensuite ainsi. Ils veulent faire de bonnes œuvres avant que les péchés soient pardonnés, tandis qu'il faut que les péchés soient pardonnés avant que de bonnes œuvres puissent se faire. Ce ne sont pas les œuvres qui chassent le péché, mais chasse le péché et tu auras les œuvres. Car les bonnes œuvres doivent être faites avec un cœur joyeux et une bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire avec la rémission des péchés. Puis il en vient au but principal de son sermon, et ce but fut aussi celui de toute la réformation. L'Église s'était mise à la place de Dieu et de sa parole. Il la récuse et fait tout dépendre de la foi à la parole de Dieu. La rémission de la faute, dit-il, n'est au pouvoir ni du pape, ni de l'évêque, ni du prêtre, ni de quelque homme que ce soit, mais elle repose uniquement sur la parole de Christ et sur ta propre foi. Car Christ n'a pas voulu édifier notre consolation, notre salut sur une parole ou sur une œuvre d'homme, mais uniquement sur lui-même, sur son œuvre et sur sa parole. Ton repentir et tes œuvres peuvent te tromper, mais Christ, ton Dieu, ne te mentira pas, il ne chancellera pas, et le diable ne renversera pas ses paroles. Un pape, un évêque, n'ont pas plus de pouvoir que le moindre prêtre quand il s'agit de remettre une faute. Et même s'il n'y a pas de prêtre, chaque chrétien, fût-ce une femme, fût-ce un enfant, peut faire la même chose. Car si un simple chrétien te dit « Dieu pardonne le péché au nom de Jésus-Christ » et que toi, tu reçoives cette parole avec une foi ferme, et comme si Dieu lui-même te l'adressait, tu es absous. Si tu ne crois pas que tes péchés te sont pardonnés, tu fais ton Dieu menteur, et tu te déclares plus sûr de tes vaines pensées que de Dieu et de sa parole. Sous l'Ancien Testament, ni prêtre, ni roi, ni prophète n'avaient la puissance d'annoncer la rémission des péchés. Mais sous le Nouveau, chaque fidèle a ce pouvoir. L'Église est toute pleine de la rémission des péchés. Si un chrétien pieux console ta conscience par la parole de la croix, qu'il soit homme ou femme, jeune ou vieux, reçois cette consolation avec une foi telle que tu te laisses mettre plusieurs fois à mort plutôt que de douter qu'il en soit ainsi devant Dieu. Repens-toi. Fais toutes les œuvres que tu peux faire, mais que la foi que tu as dans le pardon de Jésus-Christ tienne le premier rang et commande seule sur le champ de bataille. Ainsi parlait Luther à ses auditeurs étonnés et ravis. Tous les échafaudages que des prêtres impudents avaient élevés à leur profit entre Dieu et l'âme de l'homme étaient abattus et l'homme était mis face à face de son Dieu. La parole du pardon descendait pure d'en haut sans passer par mille canaux corrupteurs. Pour que le témoignage de Dieu fût valable, il n'était plus besoin que des hommes y imposassent leur cachet trompeur. Le monopole de la caste sacerdotale était aboli, l'Église était émancipée. Livre 3, chapitre 11. Appréhension de ses amis. Voyage à Heidelberg. Bibra. Le château palatin. Rupture. Les paradoxes. Disputes. Les auditeurs. Bucer. Brins. Schnepf. Conversation avec Luther. Travaux de ses jeunes docteurs. Effets sur Luther. Le vieux professeur. La vraie lumière. Arrivée. Cependant, il fallait que le feu qui avait été allumé à Wittenberg le fût aussi ailleurs. Luther, non content d'annoncer la vérité de l'Évangile dans le lieu de sa résidence, soit à la jeunesse académique, soit au peuple, désirait répandre en d'autres lieux les semences de la saine doctrine. L'ordre des Augustins devait tenir, au printemps de l'an 1518, son chapitre général à Heidelberg. Luther y fut convoqué comme l'un des hommes les plus distingués de l'ordre. Ses amis firent tout ce qu'ils purent pour le dissuader d'entreprendre ce voyage. En effet, Les moines s'étaient efforcés de rendre le nom de Luther odieux dans tous les lieux qu'ils devaient traverser. Aux insultes, ils ajoutaient les menaces. Il fallait peu de choses pour exciter sur son passage un tumulte populaire dont il pouvait être la victime. Ou bien, disaient ses amis, ce qu'ils n'oseront faire par violence, ils le feront par embûche et par fraude. Mais Luther ne se laissa jamais arrêter dans l'accomplissement d'un devoir par la crainte du danger, même le plus imminent. Il ferma donc l'oreille aux timides discours de ses amis. Il leur montra celui dans lequel était sa confiance et sous la garde duquel il voulait entreprendre ce voyage si redouté. Puis, les fêtes de Pâques étant passées, il se mit tranquillement en route à pied le 13 avril 1518. Il avait avec lui un guide nommé Urbain qui portait son petit bagage et qui devait l'accompagner jusqu'à Wurtzbourg. Que de pensées durent se presser dans le cœur du serviteur du Seigneur pendant ce voyage. À Weissenfeld, le pasteur qu'il ne connaissait pas le reconnut aussitôt pour le docteur de Wittenberg et lui fit bon accueil. À Erfurt, deux autres frères de l'ordre des Augustins se joignirent à lui. À Judenbach, ils rencontrèrent tous trois le conseiller intime de l'électeur, Degenhard Pfeffinger, qui leur fit les honneurs de l'auberge où ils le trouvèrent. « J'ai eu du plaisir, écrivit Luther à Spalatin, à rendre ce riche seigneur plus pauvre de quelques gros. Vous savez combien j'aime, en toute occasion, faire quelques brèches aux riches, au profit des pauvres, surtout si les riches sont de mes amis. » Il arriva à Cobourg, accablé de fatigue. « Tout va bien par la grâce de Dieu, écrivit-il, si ce n'est que j'avoue avoir péché en entreprenant ce voyage à pied. Mais je n'ai pas besoin, je pense, pour ce péché-là, de la rémission des indulgences. » Car la contrition est parfaite et la satisfaction est pleine. Je suis abîmé de fatigue et toutes les voitures sont remplies. N'est-ce pas assez, même trop de pénitence, de contrition et de satisfaction ? Le réformateur de l'Allemagne, ne trouvant pas une place dans les voitures publiques, ni quelqu'un qui voulut lui céder la sienne, fut obligé le lendemain, malgré sa lassitude, de repartir de Cobourg modestement à pied. Il arriva à Wurtzbourg le second dimanche après Pâques, vers le soir. Là, il renvoya son guide. C'était dans cette ville que se trouvait l'évêque de Bibra, qui avait accueilli ses thèses avec tant d'approbation. Luther était porteur pour lui d'une lettre de l'électeur de Saxe. L'évêque, tout joyeux de l'occasion qui se présentait de connaître personnellement ce hardi champion de la vérité, se hâta de le faire appeler au palais épiscopal. Il alla à sa rencontre, lui parla avec beaucoup d'affection et offrit de lui fournir un guide jusqu'à Heidelberg. Mais Luther avait rencontré à Wurtzbourg ses deux amis, le vicaire général Stopitz et Lange, le prieur d'Erfurt, qui lui avait offert une place dans leur voiture. Il remercia donc Bibra de son offre, et le lendemain, les trois amis partirent de Wurtzbourg. Ils voyagèrent ainsi pendant trois jours, conversant ensemble. Le 21 avril, ils atteignirent Heidelberg. Luther alla loger au couvent des Augustins. L'électeur de Saxe lui avait donné une lettre pour le comte palatin Wolfgang, duc de Bavière. Luther se rendit à son superbe château, dont la situation fait encore à cette heure l'admiration des étrangers. Le moine des plaines de la Saxe avait un cœur pour admirer cette position de Heidelberg où se réunissent les deux belles vallées du Rhin et du Neckar. Il remit sa lettre à Jacques Simler, intendant de la cour. Celui-ci, l'ayant lu, lui dit « « Vraiment, vous avez là une précieuse lettre de créance. » Le comte palatin reçut Luther avec beaucoup de bienveillance. Il l'invita souvent à sa table ainsi que Lange et Stopitz. Une réception si amicale était une grande consolation pour Luther. Nous nous réjouissions et nous divertissions les uns les autres par une agréable et douce causerie, dit-il, mangeant, buvant, passant en revue toutes les magnificences du palais palatin, admirant les ornements, les armures, les cuirasses, enfin tout ce que contient de remarquable ce château, illustre et vraiment royal. Cependant, Luther avait une autre œuvre à faire. Il devait travailler tandis qu'il était jour. Transporté dans une université qui exerçait une grande influence sur l'ouest et sur le sud de l'Allemagne, il devait y frapper un coup qui ébranla les églises de ces contrées. Il se mit donc à écrire des thèses qu'il se proposait de soutenir dans une dispute publique. De telles disputes n'avaient rien que d'ordinaire. Mais Luther sentait que, pour que celle-ci fût utile, elle devait occuper vivement les esprits. Son caractère le portait d'ailleurs à présenter la vérité sous une forme paradoxale. Les professeurs de l'université ne voulurent pas permettre que la dispute eût lieu dans leur grand auditoire. On fut donc obligé de prendre une salle du couvent des Augustins. Le 26 avril fut fixé pour le jour du combat. Heidelberg reçut plus tard la parole évangélique. En assistant à la conférence du couvent, on pouvait prévoir déjà qu'elle y porterait des fruits. La réputation de Luther attira un grand concours d'auditeurs. Professeurs, courtisans, bourgeois, étudiants s'y trouvaient en foule. Voici quelques-uns des « paradoxes » du docteur, c'est le nom qu'il donne à ses thèses. Peut-être le leur donnerait-on encore de nos jours. Il serait facile pourtant de traduire ces paradoxes en propositions évidentes. Numéro 1. La loi de Dieu est une doctrine salutaire de la vie. Néanmoins, elle ne peut point aider l'homme dans la recherche de la justice. Au contraire, elle lui nuit. Numéro 3. Des œuvres d'homme, quelque belles et bonnes qu'elles puissent être, ne sont cependant, selon toute apparence, que des péchés mortels. Numéro 4. Des œuvres de Dieu, quelque difformes et mauvaises qu'elles puissent paraître, ont toutefois un mérite immortel. Numéro 7. Les œuvres des justes eux-mêmes seraient des péchés mortels si, remplis d'une sainte révérence du Seigneur, ils ne craignaient pas que leurs œuvres ne fussent en effet des péchés mortels. Numéro 9. Dire que les œuvres faites sans Christ sont, il est vrai, mortes, mais ne sont pas mortelles, est un oubli dangereux de la crainte de Dieu. Numéro 13. Le libre arbitre, après la chute de l'homme, n'est plus qu'un simple mot. Et si l'homme fait ce qu'il lui est possible de faire, il pèche mortellement. Numéro 16. Un homme qui s'imagine parvenir à la grâce en faisant tout ce qu'il lui est possible de faire, ajoute un péché à un autre péché et il est deux fois coupable. Numéro 18. Il est certain que l'homme doit entièrement désespérer de lui-même afin d'être rendu capable de recevoir la grâce de Christ. Numéro 21. Un théologien d'honneur appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, mais un théologien de la croix parle justement de la chose. Numéro 22. La sagesse qui apprend à connaître les perfections invisibles de Dieu dans ses œuvres enfle l'homme, l'aveugle et l'endurcit. Numéro 23. La loi excite la colère de Dieu, tue, maudit, accuse, juge et condamne tout ce qui n'est pas en Christ. Numéro 24. Cependant, cette sagesse n'est pas mauvaise et la loi n'est pas à rejeter. Mais l'homme qui n'étudie pas la science de Dieu sous la croix change en mal tout ce qui est bon. Numéro 25. Celui-là n'est pas justifié qui fait beaucoup d'œuvres, mais celui qui sans œuvres croit beaucoup en Jésus-Christ. Numéro 26. La loi dit « Fais cela » et ce qu'elle commande n'est jamais fait. La grâce dit « Crois en celui-ci » et déjà toutes choses sont accomplies. Numéro 28. L'amour de Dieu ne trouve rien dans l'homme, mais il y crée ce qu'il aime. L'amour de l'homme provient de son bien-aimé. 5 docteurs en théologie attaquèrent ces thèses. Ils les avaient lues avec l'étonnement que la nouveauté excite. Cette théologie leur paraissait fort étrange. Cependant, ils disputèrent, d'après le témoignage de Luther lui-même, avec une affabilité qui lui inspira pour eux beaucoup d'estime, mais en même temps avec force et discernement. Luther, de son côté, montra une admirable douceur dans ses réponses, une incomparable patience à écouter les objections de ses adversaires et toute la vivacité de saint Paul à résoudre les difficultés qui lui étaient faites. Ses réponses, courtes mais pleines de la parole de Dieu, remplissaient d'admiration tous ceux qui l'entendaient. « Il est en tout semblable à Érasme, » disaient plusieurs, « mais en une chose il le surpasse, c'est qu'il professe ouvertement ce qu'Érasme se contente d'insinuer. » La dispute approchait de sa fin. Les adversaires de Luther s'étaient retirés avec honneur du champ de bataille. Le plus jeune d'entre eux, le docteur Georges Niger, restait seul aux prises avec le puissant athlète, effrayé des propositions hardies du moine Augustin et ne sachant plus à quels arguments recourir, il s'écria avec l'accent de la crainte « Si nos paysans entendaient de telles choses, ils vous lapideraient et vous tueraient. » À ces mots, une hilarité générale éclata dans l'auditoire. Jamais auditeur n'avait cependant écouté avec autant d'attention une dispute théologique. Les premières paroles du réformateur avaient réveillé les esprits. Des questions qui, peu auparavant, n'eussent trouvé qu'indifférence, étaient à cette heure pleines d'intérêt. On lisait sur les physionomies de plusieurs des assistants les idées nouvelles que les assertions hardies du docteur Saxon faisaient naître dans leur esprit. Trois jeunes gens, surtout, étaient vivement émus. L'un d'eux, nommé Martin Busser, était un dominicain, âgé de 27 ans, qui, malgré les préjugés de son ordre, paraissait ne pas vouloir perdre une seule des paroles du docteur. Né dans une petite ville de l'Alsace, il était entré à 16 ans dans un couvent. Il montra bientôt tant de moyens que les moines les plus éclairés conçurent de lui de hautes espérances. « Il sera un jour l'ornement de notre ordre, » disait-il. Ses supérieurs l'avaient envoyé à Heidelberg pour qu'il s'y livrât à l'étude de la philosophie, de la théologie, du grec et de l'hébreu. À cette époque, Érasme publiait plusieurs de ses ouvrages. Busser les lut avec avidité. Bientôt parurent les premiers écrits de Luther. L'étudiant alsacien s'empressa de comparer la doctrine du réformateur avec les saintes écritures. Quelques soupçons sur la vérité de la religion du pape s'élevèrent dans son esprit. C'est ainsi que la lumière se répandait en ses jours. L'électeur palatin distingua ce jeune homme. Sa voix forte et sonore, l'agrément de ses manières, l'éloquence de sa parole, la liberté avec laquelle il attaquait les vices dominants faisaient de lui un prédicateur distingué. Il fut nommé chapelain de la cour et il remplissait ses fonctions quand on annonça le voyage de Luther à Heidelberg. Quelle joie pour Busser! Personne ne se rendit avec plus d'empressement dans la salle du couvent des Augustins. Il s'était muni de papier, de plumes et d'encre. Il voulait coucher par écrit tout ce que dirait le docteur. Mais pendant que sa main traçait avec rapidité les paroles de Luther, la main de Dieu écrivait en caractères plus ineffaçables dans son cœur les grandes vérités qu'il entendait. Les premières lueurs de la doctrine de la grâce se répandirent dans son âme pendant cette heure mémorable. Le dominicain fut gagné à Christ. Non loin de Busser, se trouvait Jean Brins, ou Brintus, alors âgé de 19 ans. Brins, fils d'un magistrat d'une ville de la Souabe, avait été inscrit à 13 ans sur le rôle des étudiants de Heidelberg. Nul ne montrait tant d'application. Quand minuit avait sonné, Brins se levait et se mettait à l'ouvrage. Il en contracta tellement l'habitude que durant toute sa vie, il ne put plus dormir après cette heure. Plus tard, il consacra ses moments tranquilles à la méditation des Écritures. Brins fut un des premiers à s'apercevoir de la lumière nouvelle qui paraissait alors en Allemagne. Il l'accueillit avec une âme pleine d'amour. Il lut avidement les écrits de Luther. Mais quel ne fut pas son bonheur quand il put l'entendre lui-même à Heidelberg. L'une des propositions du docteur frappa surtout le jeune Brins. Ce fut celle-ci. « Celui-là n'est pas justifié devant Dieu qui fait beaucoup d'œuvres, mais celui qui, sans œuvres, croit beaucoup en Jésus-Christ. » Une femme pieuse de Heilbronn sur le Neckar, épouse d'un sénateur de cette ville, nommé Schnepf, avait, à l'exemple d'Anne, consacré au Seigneur son fils premier-né, avec le vif désir de le voir se vouer à la théologie. Ce jeune homme, né en 1495, fit de rapides progrès dans les lettres, mais soit par goût, soit par ambition, soit pour suivre le désir de son père, il se livra à l'étude de la jurisprudence. La pieuse mère voyait avec douleur son fils, son Erhard, suivre une autre carrière que celle à laquelle elle l'avait consacré. Elle l'avertissait, elle le pressait, elle le sommait sans cesse de se souvenir du vœu qu'elle avait fait au jour de sa naissance. Enfin, vaincu par la constance de sa mère, Erhard Schnepf se rendit. Bientôt, il goûta lui-même tellement ses nouvelles études que rien au monde n'eût pu l'en détourner. Il était intimement lié avec Busser et Brins. Et ils demeurèrent amis toute leur vie, car, dit l'un de leurs historiens, les amitiés fondées sur l'amour des lettres et de la vertu ne s'éteignent jamais. Il assistait avec ses deux amis à la dispute de Heidelberg. Les paradoxes et la lutte courageuse du docteur de Wittenberg lui imprimèrent un nouvel élan. Rejetant l'opinion vaine des mérites humains, il embrassa la doctrine de la justification gratuite du pécheur. Le lendemain, Busser se rendit auprès de Luther. J'eus avec lui, dit-il, une conversation familière et sans témoin, le repas le plus exquis, non par les mets, mais par les vérités qui m'étaient proposées. Quoi que ce fût que j'objectasse, le docteur répondait à tout et expliquait tout avec la plus parfaite clarté. Oh, plût à Dieu que j'eusse le temps de t'en écrire davantage. Luther lui-même fut touché des sentiments de Busser. C'est le seul frère de son ordre, écrivit-il à Spalatin, qui est de la bonne foi. C'est un jeune homme de grandes espérances. Il m'a reçu avec simplicité, il a conversé avec moi avec avidité. Il est digne de notre confiance et de notre amour. Brins, Neff, d'autres encore, pressés par les vérités nouvelles qui commencent à se faire jour dans leur esprit, vont de même voir Luther. Ils parlent, ils confèrent avec lui, ils lui demandent des éclaircissements sur ce qu'ils n'ont pas compris. Le réformateur, appuyé sur la Bible, leur répond. Chacune de ces paroles fait jaillir pour eux une nouvelle lumière. Un nouveau monde s'ouvre devant eux. Après le départ de Luther, ces hommes généreux commencèrent à enseigner à Heidelberg. Il fallait poursuivre ce que l'homme de Dieu avait commencé et ne pas laisser s'éteindre le flambeau qu'il avait allumé. Les écoliers parleront si les docteurs se taisent. Brins, quoiqu'il fût encore si jeune, expliqua saint Matthieu, d'abord dans sa propre chambre, puis le local devenant trop petit, dans l'auditoire de philosophie. Les théologiens, pleins d'envie à la vue du grand concours d'auditeurs que ce jeune homme attirait, s'irritèrent. Brins prit alors les ordres et transporta ses lectures dans le collège des chanoines du Saint-Esprit. Ainsi, le feu déjà allumé en Saxe le fut aussi dans Heidelberg. La lumière multipliait ses foyers. Ce fut, comme on l'a dit, le temps des semailles pour le Palatinat. Mais ce ne fut pas le Palatinat seulement qui recueillit les fruits de la dispute de Heidelberg. Ses amis courageux de la vérité devinrent bientôt de grands flambeaux dans l'Église. Ils occupèrent tous des places éminentes et prirent part à beaucoup de débats auxquels la Réformation donna lieu. Strasbourg et plus tard l'Angleterre durent aux travaux de Bucer une connaissance plus pure de la vérité. Schnepf la professa d'abord à Marbourg, puis à Stuttgart, à Tübingen et à Iéna. Brins, après avoir enseigné à Heidelberg, le fit longtemps à Halle, en Souabe et à Tübingen. Nous retrouverons plus tard ces trois hommes. Cette dispute fit avancer Luther lui-même. Il croissait de jour en jour dans la connaissance de la vérité. « Je suis, disait-il, de ceux qui ont fait des progrès en écrivant et en instruisant les autres, et non pas de ceux qui, de rien, deviennent tout à coup de grands et de savants docteurs. » Il était plein de joie de voir avec quelle avidité la jeunesse des écoles recevait la vérité naissante, et il se consolait ainsi de ce que les vieux docteurs étaient si fort enracinés dans leurs opinions. « J'ai la magnifique espérance, disait-il, que de même que Christ, rejeté par les Juifs, est allé vers les gentils, nous verrons maintenant aussi la vraie théologie que rejettent ces vieillards aux opinions vaines et fantastiques accueillies par la génération nouvelle. » Le chapitre étant terminé, Luther pensa à retourner à Wittenberg. Le comte palatin lui remit pour les lecteurs une lettre datée du 1er mai dans laquelle il disait que Luther avait montré tant d'habileté dans la dispute qu'il en rejaillissait une grande gloire sur l'université de Wittenberg. On ne voulut point permettre qu'il s'en retournât à pied. Les Augustins de Nuremberg le conduisirent jusqu'à Würzbourg. De là, il alla à Erfurt avec les frères de cette ville. À peine y était-il arrivé qu'il se rendit à la maison de Jodocus, son ancien maître. Le vieux professeur, très affecté et très scandalisé de la route que son disciple avait prise, avait coutume de mettre devant toutes les sentences de Luther un theta, lettre dont se servaient les Grecs pour indiquer la condamnation. Il avait écrit au jeune docteur pour lui adresser des reproches, et celui-ci désirait répondre de bouche à ses lettres. N'ayant pas été reçu, il écrivit à Jodocus. « Toute l'université, à l'exception d'un seul licencié, pense comme moi. Il y a plus, le prince, l'évêque, plusieurs autres prélats, et tout ce que nous avons de citoyens éclairés déclare d'une voix unanime que jusqu'à présent ils n'avaient ni connu ni entendu Jésus-Christ, son évangile. » Je suis prêt à recevoir vos corrections, et quand même elles seraient dures, elles me paraîtraient très douces. Et penchez donc votre cœur sans crainte, déchargez votre colère, je ne veux ni ne puis être irrité contre vous. Dieu et ma conscience en sont témoins. » Le vieux docteur fut touché des sentiments de son ancien élève. Il voulut voir s'il n'y avait pas moyen d'enlever le theta condamnateur. Ils eurent une explication, mais elle fut sans résultat. « Je lui ai du moins fait comprendre, dit Luther, que toutes leurs sentences étaient semblables à cette bête qui, à ce qu'on dit, se mange elle-même. Mais on a beau parler à un sourd, ces docteurs s'attachent obstinément à leurs petites distinctions, bien qu'ils avouent n'avoir pour les soutenir que les lumières de la raison naturelle, comme ils disent, chaos ténébreux pour nous qui n'annonçons d'autre lumière que Jésus-Christ, seule et véritable lumière. » Luther quitta Erfurt dans la voiture du couvent qui le conduisit à Eisleben. De là, les Augustins du lieu, fiers d'un docteur qui jetait tant d'éclat sur leur ordre et sur leur ville, où il avait vu le jour, le firent mener à Wittenberg avec leurs propres chevaux et à leurs frais. Chacun voulait donner une marque d'affection et d'estime à cet homme extraordinaire qui grandissait à chaque pas. Il arriva le samedi après l'ascension. Le voyage lui avait fait du bien et ses amis le trouvèrent plus fort et de meilleure mine qu'avant son départ. Ils se réjouirent de tout ce qu'il leur rapporta. Luther se reposa quelque temps des fatigues de sa course et de la dispute de Heidelberg, mais ce repos ne fut qu'une préparation à de plus rudes travaux.